La première,
9h-10h,
l'histoire continue,
Bertrand N, Hélène Maquet.
Il y a des zones où on peut construire, il y a des zones où on ne peut pas construire.
Je ne sais pas, c'est un cidre vert, je ne sais pas ce que c'est.
Je propose que la famille Sagaoué démonte la maison.
S'il faut, j'irai même trouver le roi et la reine s'il faut.
Construire une villa, quatre façades, avoir un jardin, profiter de la retraite à la campagne, c'est le rêve de toute une vie pour beaucoup de Wallonnes et de Wallons.
Ce rêve, les Sagaoué l'ont réalisé au bord de la Sambre, près de Thouin. Ils ont fait construire une fermette.
Mais la maison a été bâti sans permis, en zone verte, sur un site classé.
De quoi déclencher la réaction des défenseurs de l'environnement, des médias et de la région wallonne.
Un bras de fer qui durera plus de 20 ans, une saga qui illustre combien les dossiers urbanistiques peuvent être sensibles.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Histoire continue.
On se replonge donc aujourd'hui dans une histoire qui a bien occupé la Wallonie dans les années 90 et au début des années 2000. C'est l'affaire Sagaoué, l'histoire d'un couple d'entrepreneurs qui fait construire sa maison sans permis dans une zone verte et qui y restera jusqu'au bout, jusqu'à sa mort.
Oui, et l'affaire a été énormément médiatisée, sans doute parce qu'elle disait beaucoup de choses sur l'époque. Alors on va pointer par exemple le laxisme des autorités wallonnes en matière d'infraction urbanistique. Elle disait aussi beaucoup du rêve très populaire dans les années 90 d'une villa, quatre façades à la campagne. Elle disait aussi la montée en puissance de la préoccupation environnementale, de la préservation des zones vertes. L'affaire Sagaoué était une illustration du conflit entre le rêve du logement à la campagne et la préservation de la nature.
Pour en parler avec nous, deux invités. D'abord, Hélène Ancion, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de mission aménagement du territoire et urbanisme à Inter-Environnement Wallonie, qu'on doit désormais appeler Canopéa.
C'est bien ça.
Un mot pour vous, pour qualifier cette affaire Sagaoué, ça vous évoque quoi?
Alors, peut-être plus parler de ce qu'on va faire aujourd'hui, qui me semble être un exercice théorique très intéressant, parce qu'il va nous donner l'occasion de nous extraire des aspects humains individuels pour penser aux aspects humains communs, pour penser au bien commun.
Avec nous également, Jean-Marc Secrétin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat, spécialiste du droit de l'environnement et de l'urbanisme au barreau de Liège. Même question à vous, tiens, un mot qui vous vient à l'esprit quand on vous dit Sagaoué.
Toute la difficulté d'exécuter une décision de justice.
Et pour bien comprendre tout ça, on se replonge au début des années 90, en bord de Sambre.
Octobre 1992. À l'Aube, près de Thouin, les chênes d'automne font rougeoyer la Sambre. La rivière berce lentement l'herbe grasse des prairies vallonnées. Des passereaux, des merles, des martins pêcheurs brisent le silence de cette petite vallée qui mène la Sambre de la frontière française à Thouin. Sur un site naturel classé, le calme, qui d'habitude règne en maître, est perturbé. On construit une maison. Des briques rouges s'élèvent à quelques mètres du chemin de halage. Des marteaux, des scies fondent l'air brumeux d'un automne gris et froid. Mais cette maison se construit dans une zone verte où toute construction est normalement interdite. Des riverains dénoncent les faits à la justice.
Nous sommes ici dans un site classé, devant une maison quasi bâtie, qui demande un permis de bâtir. Je trouve ça un petit peu bizarre. Les autorités ont été averties ici, il y a tout au début des travaux, dès les fondations.
Des naturalistes déposent plainte, l'administration s'en mêle. Des scellés sont posés pour faire arrêter le chantier et la télévision débarque. C'est un couple qui fait construire, le couple Sagaoué. Des entrepreneurs proches de la retraite, ils construisent là leur dernière maison pour leur vieux jour. Lui a le visage buriné, elle la voix calaminée par le tabac.
On a toujours dit quand nous serons vieux, comme mon mari est entrepreneur depuis qu'il est tout jeune, puisque c'est de père en fils, on va faire notre dernière maison pour nous.
C'est Madame Sagaoué qui parle. Elle se dit surprise de la réforcer des travaux.
Nous avons rentré les plans à l'administration communale, c'est parti pour Mons, à l'urbanisme et tout ça. En attendant, comme nous allons rentrer dans des mauvais temps, ce qui est tout à fait logique. Mon mari est entrepreneur, j'ai fait le manœuvre, mon fils et mon mari, nous avons commencé à construire. Voilà. Et maintenant, ben voilà, on est à la toiture, regardez la charpente est prête à mettre dessus, on a dit stop.
Avec cette première interview à une équipe de la RTBF, le couple Sagaoué entame en cette année 1992 leur carrière médiatique. Elle sera longue et pleine de rebondissements, car ils ne comptent pas du tout se laisser faire, ils ne comptent pas du tout obéir à la loi.
Je ne sais pas, c'est un cidre classique, c'est un cidre vert, je ne sais pas ce que c'est, tout juste, c'est moi la dernière à le savoir. Quand j'ai su qu'il y avait qu'on mettait des bâtons dans les roues, j'ai été trouvé un député. Mon mari était à Mons, et ainsi de suite. C'est la vérité. J'ai fait intervenir plusieurs personnes qui n'y voient pas d'inconvénients, et tout d'un coup, pouf, faut bien mettre les scellés. Je sais pas. Je ne vais pas vous dire. Mais j'irai encore plus loin. S'il faut, j'irai même trouver le roi et la reine, s'il faut.
Les Sagaoué vont se battre. Ils vont montrer une détermination sans faille à ignorer les règles. Pourtant, leur dossier est limpide. Depuis son bureau de Mons, entouré de cartes et de plans de secteur, un fonctionnaire de l'urbanisme est formel.
Actuellement, l'administration a introduit le dossier devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour obtenir la démolition du bâtiment. La loi a prévu certains plans de secteur. Les plans de secteur ont découpé l'ensemble du territoire en zones différentes. Il y a des zones où on peut construire, il y a des zones où on ne peut pas construire. Il y a des zones où la construction est susceptible d'être admise moyennant des conditions. Ici, c'est une zone verte. Dans ces conditions, il est évident qu'on ne peut pas y habiter.
Une procédure est donc lancée devant le tribunal de Charleroi. Les scellés sont posés sur la maison, mais les Sagaoué les arrachent. La construction de la maison continue donc. L'hiver passe sur la campagne tudinienne et au printemps, de la fumée s'échappe de la cheminée de la maison des Sagaoué. Le petit jardin fleuri de tagettes et de jonquilles sert de décor à un nain de jardin qui pousse une brouette. La maison imite le style fermette avec son toit en forte pente et ses tuiles rouges. Une grille barre le passage de la toute nouvelle allée qui mène vers le tout nouveau garage. Sur les deux piliers de briques qui supportent la grille, deux statues de bergers allemands en pierre regardent fièrement l'ascenseur.
2000 francs.
Un R.
Deux R.
À l'intérieur de la maison, une cuisine en chêne rustique, des divans de cuir bleu. Les Sagaoué regardent la roue de la fortune sur TF1.
Un P.
Un P comme Pierre. Non.
Le chien est dans son panier et la RTBF est là. Elle se demande pourquoi les Sagaoué sont tranquillement en train de profiter de leur retraite dans une maison illégale.
Je n'ai pas peur parce que j'ai confiance en la justice et moi je me sens quand même dans mes droits. Je sais que j'ai commencé sans autorisation, ça c'est vrai, le fait est là. Mais tout en croyant que cette situation allait s'arranger, quoi.
Et si on devait démolir la maison, vous habitez dedans maintenant, ce serait terrible pour vous.
Qu'est-ce que vous posez là une question? Je ne saurais pas vous répondre, moi. Bien sûr que ce serait terrible.
Vous avez peur qu'on doive la démolir?
Je n'y crois pas. Je vous dis encore une fois, j'ai confiance en la justice. J'espère que ça s'arrangera.
Jean Sagaoué espère bien faire jouer ses contacts pour obtenir une régularisation. En tant qu'entrepreneur, il sait que ça arrive assez souvent en Wallonie. Mais pour les associations environnementales qui se sont constituées partie civile, une régularisation serait tout simplement intolérable.
Si on légalise une situation telle que celle-là, ça veut dire que, étant donné que tous les citoyens sont égaux devant la loi, il ne sera plus nécessaire de demander une autorisation de permis de bâtir, il ne sera plus nécessaire de se conformer au plan de secteur, et il ne sera plus nécessaire non plus de faire attention si un site est classé ou non.
Les associations de défense de l'environnement font du cas Sagaoué un emblème des libertés prises avec l'urbanisme en Wallonie. Désormais médiatisé, le dossier va devenir politique. Et les Sagaoué vont devenir des habitués des plateaux télé et des journaux où ils apparaîtront désormais sous le chapitre Saga Sagaoué.
Nous voilà donc en 1993. Les Sagaoué ont donc leur maison en zone verte. Ils ont été dénoncés. L'urbanisme lance une procédure judiciaire. La commune pose les scellés sur la maison. Mais elle est quand même construite. La télévision s'en mêle. Hélène Ancion, je rappelle que vous êtes chargée de mission aménagement du territoire et urbanisme chez Canopéa, anciennement Inter-Environnement Wallonie. À ce stade de l'histoire, on est donc au milieu des années 90. Ce qui est intéressant, c'est que ce cas fait irruption dans le débat public. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un fait divers à ce moment-là? Pourquoi est-ce que ça commence à intéresser un peu tout le monde?
Probablement parce qu'il y a le fait générateur, on va dire, enfin la faute, qui est vraiment Mastoc. On est en pleine campagne, là où plein de gens... soit rêve d'habiter, soit aime beaucoup d'aller. Et on tombe sur une espèce de maison de catalogue, excusez-moi, mais c'est même pas une maison un peu sympa. C'est une maison hyper conforme à des tas d'autres constructions.
C'est un peu une maison de lotissement, comme ça.
Un peu cliché. Quoi,
absolument. C'est comme si elle était découpée et collée, vous voyez. Donc, il y a ça qui est frappant, c'est que c'est le fait matériel, le fait générateur de la faute qui est vraiment là et qui est indéboulonnable, si on peut dire, indémolissable. On sent tout de suite qu'il va y avoir, c'est presque un combat dans l'arène. On va leur démolir leur maison. Même les gens qui connaissent sans doute pas l'histoire de fond en comble à ce moment-là ont quand même une opinion. Parce que ça suscite vraiment quelque chose de très profond. Et il y a aussi ce fait que, bien sûr, ceux qui ont un tout petit peu d'éléments se disent « Non mais attendez, c'est la loi du fait accompli ou quoi ici ?» Et je crois que ça, c'est vraiment l'autre grosse réaction. Je me reporte en arrière, mais je sais que Inter-Environnement Wallonie, à l'époque, puisque c'était comme ça que ça s'appelait à l'époque, avait vraiment été au front par rapport à cette loi du fait accompli.
Jean-Marc Secrétin, vous êtes juriste, vous êtes avocat au barreau de Liège, spécialiste du droit de l'environnement et de l'urbanisme. On va raconter la suite de l'histoire, hein, les condamnations en justice et tout ça, mais... On se remet là au milieu des années 90. Voilà, la maison est construite, c'est le fait accompli. C'est un mot qu'on va d'ailleurs souvent reprendre dans les médias à l'époque. Est-ce que c'est courant, ce genre d'affaires, vous qui suivez pas mal de contentieux, est-ce qu'à l'époque, c'était courant qu'on construise des maisons comme ça, en zone verte, et puis qu'on espère obtenir une régularisation?
Heureusement, non. Heureusement, cette situation n'était pas courante. Ce qui était sans doute plus courant à l'époque qu'aujourd'hui, c'est l'existence même d'infractions d'urbanisme. C'est-à-dire le fait de réaliser des actes et travaux qui, en principe, sont soumis à un permis préalable. Et soit on n'avait pas de permis, soit on avait un permis, mais on faisait un peu autre chose que ce que le permis autorisait. Mais après, il y a une question de mesure. Hein. Oui. Ici, on n'est pas face à quelqu'un qui a fait une annexe, un carport, un garage, une piscine. On est face à un couple qui a construit une maison, rien que ça. Non seulement cette maison a été construite sans permis, mais elle a été construite à un endroit, en zone verte, donc au plan de secteur, où il est inconcevable juridiquement de l'autoriser. Oui. Il n'y a pas de dérogation qui soit envisageable. Donc on est vraiment face au cas d'école. Et qui plus est, la maison est construite par un entrepreneur qui a la compétence, la capacité de le faire tout seul. Il n'a pas besoin de faire appel à un autre entrepreneur ou à un architecte.
Oui, qui aurait pu lui dire, attention, là, ça va trop loin. Ouais.
Et qui n'aurait pas voulu. Qui aurait dit, attendez, moi, c'est ma responsabilité d'architecte ou d'entrepreneur si j'entame les travaux alors que vous n'avez pas de permis, etc. Non, là, le gars, il a pu faire ça tout seul, M. Sagaoué, avec, comme elle le disait elle-même, son épouse qui a fait la manœuvre. Hein. Donc, il y a vraiment ici un concours de circonstances et de facteurs, sans parler nécessairement d'une incompétence ou d'une complaisance au niveau de la commune, qui a amené une situation qui, même à l'époque, était quand même un peu exceptionnelle.
Alors comment cette situation va évoluer? Justement, on retourne dans les années 90, le jugement tombe pour les époux Sagaoué et l'affaire va prendre un tour beaucoup plus politique.
Les bras de Jean Sagaoué reposent sur la barrière de fer noir qui barre l'entrée de sa maison. Fin 1994, le tribunal de Charleroi a tranché. Il doit quitter sa maison et la détruire.
Pour moi, ce terrain était bien un terrain à bâtir. Et voilà, c'est parti comme ça. Et jusqu'au jour, on est venu mettre les scellés. Je vous passe les détails, bien sûr. Et voilà, maintenant, la situation. J'ai été condamné à la démolition avec astreinte de 100 000 francs par jour. C'était un peu...
Et puis aussi de la prison.
Et de la prison. 15 jours de prison ferme. Et 200 000 francs d'amende.
On peut quand même vous reprocher que vous avez construit sans permis de bâtir.
C'est vrai que j'ai construit sans permis de bâtir, ça me serait dans le lieu difficile de dire le contraire.
Jean Sagaoué ira en appel et en cassation. Les années de procédure passent, mais sa condamnation est confirmée. Il doit partir, détruire la maison, à ses frais. Les astreintes atteignent désormais 4 millions de francs belges. Mais il refuse de payer, se déclare insolvable et reste chez lui. Les associations environnementales se désolent et demandent à la région wallonne d'intervenir. Elle a le pouvoir d'expulser les Sagaoué et de faire détruire la maison. Les élections de 1999 approchent et cette affaire embarrasse le ministre de l'époque, le PSC Michel Lebrun. Il est impopulaire de ne rien faire, mais il est aussi impopulaire d'expulser un couple de personnes âgées. Il reçoit à son cabinet Jean Sagaoué. Le deal est simple. La région n'intervient plus, suspend les astreintes, mais les Sagaoué détruisent eux-mêmes la maison. Pendant ce temps, la commune met à disposition un logement. Le deal est accepté. Le ministre convoque une conférence de presse.
Je propose que la famille Sagaoué démonte la maison. Je demande que ce démontage, et ce qu'on appelle la remise en état des lieux, soit effectué pour le 1er juin.
Mais soudain, devant les caméras de télévision, les appareils photo et les journalistes, le vieux Sagaoué se rebiffe. Avec ses deux fils à côté de lui, l'homme résiste au ministre jusqu'au bout.
Il faut des engins pour démolir une maison. Il y a les fondations, il y a les égouttages, il y a tout. Pour moi, ce n'est pas une solution. Je suis dans l'impossibilité de l'accepter. Matériellement, je suis dans l'impossibilité de l'accepter.
Qu'allez-vous faire alors?
Il faut d'abord réfléchir.
On nous sortira de notre maison s'il faut, même en tous les cas, nous ne nous quitterons pas.
Le pied de nez aux autorités est frontal. Conséquence, l'expulsion s'organise. Une entreprise est mandatée pour la destruction. Mais trois jours plus tard, Jean Sagaoué revient à Namur, au cabinet de Michel Lebrun. Il se montre d'un coup plus coopératif. Oui, il détruira la maison d'ici juin. Michel Lebrun annule les 4 millions d'astreintes. Le ministre annonce l'accord confiant, content d'éviter une expulsion très médiatisée deux mois avant les élections.
Vous êtes déçu ?
Je ne vais pas vous dire non, hein, monsieur. Je suis surtout déçu, c'est pour mon épouse, parce qu'elle ne résistera jamais à ça. Le premier meuble qu'on sort de la maison, ben, je suis persuadé que c'est fini pour elle. Mais il n'y avait pas d'autre solution, hein, maintenant. Je...
Où allez-vous aller en attendant, monsieur Sagaoué ?
Je n'en sais encore rien.
La famille entourera monsieur Sagaoué, je pense que c'est important.
En conclusion, nul ne peut être au-dessus des lois. En région wallonne, il fallait un exemple. La justice et le bon sens ont fini par l'emporter.
Sauf que le 1er juin 1999, au bord de la Sambre à l'Aube, rien. Pas un bruit, pas de pelleteuse ou de camion. La maison est toujours bel et bien là. La région, pourtant, n'intervient pas. Le ministre Lebrun ne bouge pas. Une signature aurait pourtant suffi pour commencer les travaux de destruction. Mais il faut dire que 12 jours plus tard, on vote. Le ministre veut éviter les remous. Le 13 juin 1999, le PSC perd les élections. Au revoir, Michel Lebrun. Les libéraux montent au pouvoir. Il y a un nouveau ministre, Michel Forêt, qui décide de ne rien décider.
Entre les deux formules, qui sont celles du tout au bulldozer, si je puis m'exprimer ainsi, ou l'autre qui est celle à tout à l'amnistie, au pardon, à l'oubli, ben je pense qu'entre les deux, il y a sans doute des formules qui sont peut-être plus intelligentes.
Durant 5 ans, Jean Sagaoué ne sera plus inquiété. Par 2 fois, les ministres ont refusé de faire appliquer les décisions de justice. Jean Sagaoué et sa femme vieillissent, le cas devient de plus en plus sensible. Le successeur de Michel Forêt, André-Antoine, hérite de l'affaire et c'est finalement lui qui, sur un plateau de télévision, met fin à cette affaire. Les Sagaoué pourront rester dans leur maison, mais à leur décès, l'immeuble deviendra propriété de l'Institut Wallon du patrimoine. Le montant des frais de démolition sera à charge des ayants droit. Sauf qu'au bout du compte, en 2011, au décès de leurs parents, les ayants droit refusent l'héritage. La facture est donc à charge de la collectivité. Ultime pied de nez des Sagaouais à la région wallonne.
La première,
l'histoire continue.
Hélène Maquet, Bertrand N.
Nous revenons donc aujourd'hui le fil de cette histoire de la saga des Sagaouais, cette maison construite hors zone constructible et qui a finalement été détruite à la mort des époux Sagaouais. Jean-Marc Secrétin, vous êtes avocat, spécialiste du droit de l'environnement et de l'urbanisme. C'est quoi pour vous la morale de cette histoire ?
La morale de l'histoire, c'est que on a beau prévoir, je crois, toutes les règles juridiques pour mener des procédures de façon à ce que finalement la loi soit respectée, hein, parce que sans sanction, une loi n'est pas une loi. Il faut pouvoir sanctionner le non-respect de la loi. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Et en définitive, toutes les procédures ont effectivement été conduites comme elles devaient l'être, jusqu'à obtenir des décisions de justice qui permettaient de mettre dehors le couple Sagaouais et de mettre par terre la maison, de remettre les lieux en état, de faire disparaître l'infraction. Mais malgré toutes ces décisions, malgré les jugements qui ont été obtenus, on s'est retrouvé face à des difficultés d'exécution importantes, conjuguant à la fois un aspect, je dirais, humaniste et des contingences politiques qui ont amené à une certaine paralysie du dossier. Et plus le dossier s'est paralysé longtemps, plus il est devenu délicat de lui faire un sort.
Mais tout à l'heure, vous avez utilisé le mot complaisance. Est-ce que ça révèle, alors complaisance ou laxisme, voilà, de la part des autorités, notamment régionales, peut-être locales aussi, au début de cette histoire, le fait que les infractions urbanistiques, c'est pas une priorité, quoi, de lutter contre les infractions, y compris quand la justice a tranché.
Oh, c'est évident qu'il y a eu une évolution au fil du temps, hein, et que entre, on va dire, les débuts de l'aménagement du territoire dans les années 60 et les situations qu'on connaît aujourd'hui, progressivement, les autorités ont pris de plus en plus conscience de la nécessité de poursuivre les infractions. Mmh. Et ce qui se faisait très peu dans les années 70, 80, peut-être même encore au début des années 90, je dirais que les mentalités ont évolué, y compris dans le chef de l'administration, et on a commencé à poursuivre de plus en plus, à l'initiative de l'administration, à l'initiative des parquets, et avec des réformes législatives qui ont mieux encadré le régime des constatations des infractions et des poursuites des infractions. On a multiplié les compétences, multiplié les armes pour éviter que les situations Sagaouais se reproduisent. Et pas seulement pour la construction d'une maison, mais aussi pour la construction d'un abri de jardin.
Hélène Ancion, vous êtes chargée de mission de territoire, on le rappelle, chez Canopéa, qui était Inter-Environnement Wallonie. Alors, ce qui est quand même fou dans cette histoire, effectivement, on répétait, il y a eu toute une série de jugements qui n'ont pas été mis en œuvre par l'administration. Mais finalement, les Sagaouais, et c'est un peu la cerise sur le gâteau, ont pu rester dans leur maison jusqu'au bout. Et c'est la région qui a dû détruire à ses frais. C'est assez fou.
Oui, ça montre bien qu'on est dans une histoire pas du tout inventée et que la réalité dépasse souvent la fiction. En fait, jusqu'à la fin, ça illustre vraiment la forte inégalité que ce dossier a introduit entre les citoyens et les citoyennes. Vraiment, pour moi, c'est ça qui ressort.
Dans quel sens ?
Une forte inégalité de traitement. Et je ne vais pas entrer dans le détail des tracasseries que certains et certaines ont quand ils introduisent des demandes. Je pense même que de base, simplement se dire soi-même, je vais plutôt rénover une maison plutôt que faire construire. C'est une démarche qui demande effectivement beaucoup de courage. La maison, elle vous rend bien, normalement, tous vos efforts. Mais autour de vous, c'est incroyable comme il y a un immobilisme. Et pourquoi tu fais rénover? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça va te coûter cher, etc. Et que finalement, par contre, aller faire construire ou construire soi-même, comme ça a été très bien dit par Maître Secrétin, Monsieur Sagaouais, il construit lui-même. Donc il se passe de quelqu'un qui pourrait introduire une demande de permis.
Et puis c'est quelqu'un qui connaît en réalité la situation. C'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il est en train de faire, probablement, puisqu'il a mené d'autres chantiers par ailleurs.
Oui, c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas nécessairement l'entrepreneur qui fait toutes les démarches d'urbanisme. Et on peut se dire que son équipe, sur aucun chantier, ne lui posait jamais aucune question. Hein, voilà, les gars et les filles qui travaillaient avec lui, très certainement, l'aidaient comme partout. C'est vraiment à lui, effectivement, qu'a combé la responsabilité de se dire « Ici, je n'ai pas d'architecte, donc c'est moi qui ai introduit la demande de permis. Oh, tiens, il ne le fait pas. Allez,
Mais Jean-Marc Secrétin, est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière cette affaire le symptôme de « on a un peu toujours fait comme ça ». Il y a un extrait que je n'ai pas repris dans le récit, parce qu'il est un peu long, mais où Jean Sagaoué explique qu'il avait acquis ce terrain dans les années 70, où les règles étaient différentes. Il avait fait construire un hangar, on ne lui avait rien dit. Il a fait construire une annexe à une maison qui était existante sur le terrain pour faire un café, on ne lui a rien dit. Bah, donc, il a construit cette maison en 92 en se disant « ne me dira rien ». Est-ce que cette affaire révèle aussi le changement qu'il y a eu entre les années 70, où au niveau urbanisme on était, disons, assez léger ou peu regardant, même s'il y avait déjà des règles, bien sûr, et puis le début des années 90, où les règles ont commencé à s'accumuler et où des associations environnementales ont commencé à dire « attention, ici c'est une zone verte, il faut la respecter ».
Ah oui, assurément, ça, sans aucun doute que c'est révélateur d'une évolution des mentalités. C'est ça que je voulais pointer tout à l'heure quand j'utilisais le terme de complaisance, c'est que quand on connaît un peu l'histoire Sagaoué, cette maison n'est pas le premier bien qu'il construisait à l'endroit. Les deux premiers étaient, à mon sens, tout aussi irréguliers que le suivant. Et par ailleurs, il a toujours prétendu, M. Sagaoué, qu'il n'avait pas construit sans introduire de demande de permis. Il a introduit sa demande de permis et puis il a entamé sa construction avant d'avoir une décision. Mmh. Et donc la commune était au courant que les travaux se menaient. Et la commune est intervenue pour faire arrêter les travaux. Et pourtant, malgré tout ça, Sagaoué a terminé sa maison. Donc, dans ce sens-là, il y a eu soit un laxisme, soit une certaine complaisance, soit un peu des deux. Et c'est évident qu'à ce niveau-là, les mentalités ont changé. Et pour prendre un exemple, je crois que ce qui a terriblement changé, c'est la prise de conscience de la responsabilité civile des communes et de la région wallonne, enfin des autorités qui délivrent les permis et qui sont chargées de faire respecter la loi. Pour prendre un exemple, un cas de figure qui me revient en tête, c'est la construction dans les années 70 d'une buvette d'un terrain de football qui a reçu et qui a abrité l'équipe de la commune pendant des années, genre 20 ou 30 ans, quoi. Et puis un jour, l'équipe de football disparaît, le bien, terrain et buvette sont mis en vente et c'est un particulier qui achète. Et il est propriétaire de 15 jours qui reçoit une lettre de la commune qui le met en demeure de démolir la buvette en lui disant « Vous êtes dans une zone où on ne peut pas construire, il faut démolir. » Et ce cas de figure a finalement mené à une condamnation de la commune pour avoir laissé croire au type qui achetait qu'il allait pouvoir à tout le moins régulariser cette buvette puisqu'elle était là depuis 30 ans et qu'on le savait dans le chef de la commune depuis toujours. Donc, puisque la commune n'a rien fait pour poursuivre cette infraction-là, c'est donc qu'elle était prête à la régulariser à tout le moins, ce qu'elle ne voulait pas. C'est très symptomatique de l'évolution, je crois, des responsabilités des pouvoirs publics à ce niveau-là. Ils ne peuvent plus faire n'importe quoi, sinon c'est leur propre responsabilité qu'ils engagent.
On entend que les pouvoirs publics comprennent à ce moment-là, ou prennent conscience qu'il faut prendre ses responsabilités. Vous disiez, Hélène Ancion, que Inter-Environnement Wallonie, à l'époque, était monté au créneau sur cette affaire-là. Ça veut dire qu'il y a aussi une prise de conscience, à ce moment-là, dans le milieu associatif, dans les mouvements environnementalistes, qu'il faut se saisir collectivement de ces infractions individuelles, qu'elles ne sont pas simplement une infraction qui va concerner une personne et un lieu précis, mais que quelque part, elles grèvent la société de manière plus large.
Oui, c'est vraiment ça qui, je pense, motivait la réaction. De toute façon, à l'époque, on était déjà avec plusieurs années d'existence d'Inter-Environnement Wallonie et des associations qui, pour certaines, remontaient au début du XXe siècle et qui avaient simplement été regroupées dans la fédération. Donc leur souci de faire respecter l'environnement, les animaux, la nature, il était bien là depuis très très longtemps. Et ce n'était pas pour tomber à bras raccourcis sur le couple Sagaoué, c'était pour montrer que dans une zone du plan de secteur où on ne peut de base pas construire, il était hors de question que quiconque obtienne un permis. Et au-delà, ces zones, elles sont faites pour nous tous. Et je crois que c'est ça qui continue et qui a du sens aujourd'hui, au-delà effectivement du laxisme, de la complaisance, qui est tout un aspect du dossier effectivement. C'est vraiment de se dire que collectivement, nous avons la jouissance de ces choses qui sont encore là, qui n'ont pas été urbanisées. Et il faut comprendre que c'est vraiment un bien commun qui nous permet de vivre, qui permet à nos villes d'être moins inondées qu'elles ne le sont quand elles le sont, qui permet aussi à tout un chacun de bénéficier d'un air correct ou plus ou moins correct, et ainsi de suite. Je pourrais faire une liste énorme des services écosystémiques. Et je crois que c'est eux que tout doucement les autorités sont en train de prendre en ligne de compte quand elles prennent leurs décisions. Parce qu'il y a réellement une obligation à prendre soin de sa population.
La première,
l'histoire continue Bertrand N. Hélène Maquet.
Jean-Marc Secrétin, j'aimerais vous demander, vous qui êtes avocat, qui avez l'habitude de traiter de contentieux urbanistiques ou en droit de l'environnement, est-ce que les leçons de l'affaire Sagaoué ont été tirées? Est-ce qu'il y a un avant et un après? Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a une construction manifestement illégale qui est jugée, est-ce que le jugement est appliqué de manière beaucoup plus rapide ou est-ce qu'il arrive encore, vous en croisez, qu'il y ait des dossiers qui traînent des dizaines d'années où les constructions restent comme ça en l'état?
Non, je dois bien dire que je n'en croise plus. Et je crois, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a une prise de conscience de leurs responsabilités par les autorités compétentes. Donc, après, la législation a aussi évolué. On a eu, dans ces matières-là, donc la matière répressive de l'urbanisme, on a eu une première réforme en 2007. Donc là, on est au cœur de la fin de l'affaire Sagaoué. Et puis, on a changé le code de l'urbanisme au 1er janvier 2018. On a le code été qui est rentré en vigueur à la place du Quatup. Et on a profité aussi de cette réforme-là pour modifier un certain nombre de choses au régime répressif. Pour ce qui concerne la régularisation, par exemple...
Oui, ce qu'espérait Jean Sagaoué.
C'est ça. Si on se reporte aux années 90, aujourd'hui, il y a une contrainte supplémentaire qui est qu'on ne peut plus régulariser un bien lorsqu'un procès-verbal d'infraction a été dressé, tant que cette infraction n'a pas été, d'une manière ou d'une autre, punie. Soit par une transaction, soit par une amende et une décision de justice, ou bien lorsqu'il n'y a pas de régularisation possible...
La remise en état.
Mais en tout état de cause, on ne peut plus espérer, alors qu'il y a un PV qui est dressé, obtenir une régularisation et que ça passe au bleu. Ça, c'est terminé.
Ça veut dire qu'on ne peut pas espérer aussi, on ne peut plus espérer faire jouer des relations, des élus qu'on connaît, etc. Parce que c'est ça aussi qui se passe dans les dossiers d'urbanisme.
Oui, et là, ici, dans l'affaire, on l'entend très bien. J'ai été voir des ministres, j'ai été voir des députés, je vais même aller voir le roi et la reine. Bon, ça, je ne sais pas si elle l'a vraiment fait.
Mais si ça marche.
Oui, si ça fonctionne, oui, c'est encore autre
chose. L'aurait-elle fait que la question est de savoir si la reine aurait pu signer un permis de,
voilà.
de régularisation. Non, mais est-ce que... En fait, il faut distinguer deux cas de figure, je crois. Le cas Sagaoué, il est particulier en ce sens que, et Mme Mention l'a très bien rappelé tout à l'heure, c'est inconcevable de régulariser là. En toute hypothèse, il est en zone verte. Juridiquement parlant, ce n'est pas possible. Et écologiquement parlant, ce serait aberrant. On voudrait même modifier le plan de secteur pour sortir l'endroit. On est en zone protégée, classée. C'était inconcevable. C'est vraiment le cas d'école. Par contre, on a toute une série de situations où on a des réalisations qui se font sans permis et où la question de savoir si c'est ou non régularisable se pose. Et là, il y a une appréciation qui est apportée par l'autorité. Et là, moi, oui, peut-être que X ou Y se dirait bien, je vais aller voir mon copain fonctionnaire, je vais aller voir le bourgmestre. Après, est-ce que ça marche? C'est un autre problème.
Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, la loi laisse moins de marge à ça?
Ah oui, incontestablement, oui.
Hélène Nancy, vous êtes d'accord avec ça sur cette marge d'interprétation qui permettrait à certains de se dire bon, alors, on a compris, le cas Sagaoué, il est indéfendable, mais que un abri de jardin, une tiny house, une yourte puissent bénéficier d'une régularisation éventuellement. Bon, est-ce que ça, aujourd'hui, ça existe toujours ou est-ce qu'au contraire, c'est beaucoup plus cadré?
Oui, c'est sans doute plus cadré aussi par le fait qu'il y a davantage de définitions qui sont introduites dans le nouveau code de 2018, donc dans le code
d'été. Le fameux code d'été, code d'aménagement du territoire et territorial, c'est ça?
C'est ça, ouais. Code de développement, oui. En tout cas, nous on l'appelle code d'été tout le temps, c'est plus facile. Les 23 plans de secteur, eux, c'est toujours les mêmes. Donc ce sont des plans dessinés avec juste des zones de couleur. Et ils n'ont pas de fond de plan. Le fond de plan, en fait, c'est des plans IGN à la même échelle qui sont aussi en planche de 23. Enfin, c'est marrant, c'est vraiment calqué sur les plans IGN. Et en fait, toutes ces petites étoiles de mer de zones bâtissables dans la campagne que vous voyez au plan de secteur, si vous en regardez un, donc c'est des zones rayées rouge et blanc pour cet habitat, donc entre guillemets, plus rural. Eh bien, en fait... Voilà, même dans les plans secteur récents, on a dessiné ces étoiles de mer très, très grandes. On est allé chercher les dernières maisons le long des grandes routes de chaque côté, dans le petit lotissement là-bas, etc. Donc, on a prévu, en fait, énormément de zones urbanisables. Et c'est là qu'aujourd'hui la vraie question se pose.
Oui, trop pour environnement, hein, c'est ça.
Ah,
vous
pour
pensez
nous, c'est
qu'en
trop,
fait, même
oui.
dans les zones habitables,
oui,
il faudrait revenir
seuls, hein.
là-dessus. Oui, non, non, mais oui, voilà, oui. C'est plus le message que vous portez en tant qu'intérêt environnement, c'est que au-delà, bon là, on est dans une zone verte, ils ne pouvaient pas construire, mais même dans les zones constructibles, il faudrait restreindre, réduire.
Quoi. Oui, et plutôt regarder tout ce qui existe déjà comme construction, donc pas seulement comme logement, hein, mais aussi toutes les constructions qui existent, qui sont là, qui ont été faites par des gens qui, comme les Sagaouais, y ont mis tout leur cœur, y ont mis toute leur énergie, et parfois ont réussi architecturalement des choses un peu plus correctes. Mmh. Ont aussi, probablement, depuis plus longtemps, fait ces constructions. Donc, n'ayons pas peur que ça ait l'air parfois un peu en moins bon état ou très mélangé. Je crois que les plans de secteur aujourd'hui, on doit les relire attentivement et voir tout ce qui est contrainte naturelle, aléas d'inondation et croiser tout ça avec le plan de secteur. Parce que c'est une analyse qui est faite par les communes aujourd'hui. Les communes regardent le plan de secteur et tous les autres plans, toutes les autres contraintes. Mais il faut peut-être un peu leur faciliter la vie parce qu'elles n'ont pas toutes les compétences par rapport à leur autorité. Hein, dans le chef d'une commune, il y a beaucoup, beaucoup de compétences. Mais par contre, avoir vraiment les grilles de lecture, souvent, elles manifestent le fait qu'elles ont besoin. Et aussi pour pouvoir un peu faire le bras de fer, parfois avec les citoyens qui ne comprennent pas certaines décisions.
Oui. Jean-Marc Secrétin, là-dessus, sur l'existence des plans de secteur. Bon, ici, c'était clair, encore une fois. Hein, comme vous dites, le cas était limpide. Il était en dehors, enfin, dans une zone non constructible. Mais dans les zones constructibles, il y a aussi une série de conflits hein, sur la préservation de l'environnement, de la nature, alors qu'on est dans des zones constructibles. Vous en voyez beaucoup, vous, qui avez l'habitude des contentieux, ce type de problème.
Oui, oui, énormément. Je dirais que c'est ce qu'on voit le plus. On a très peu de situations, finalement, statistiquement parlant, je vais dire, hein, par rapport au nombre de dossiers qu'on prend en charge, on voit finalement assez peu de situations de construction en dehors de zones où on peut le faire.
Oui.
Par contre, ce qu'on voit souvent, c'est la confrontation entre, d'une part, le propriétaire ou le promoteur, enfin le bénéficiaire d'un droit sur un terrain qui est en zone constructible et qui presque considère que parce qu'il est en zone constructible au plan de secteur, il a le droit de construire un peu comme il veut,
oui.
Et que donc on ne doit pas lui refuser son permis puisqu'il est en zone constructible. Et d'un autre côté, toute une série de critères et d'éléments d'appréciation qui sont pris en charge la plupart du temps par les communes, pris en compte pardon, par les communes ou par le fonctionnaire délégué dans ses avis, pour en arriver à des situations où ils vont dire non à la réalisation d'une construction en zone où pourtant on peut construire.
Oui.
En disant parfois, non, pas comme ça, parce que cette brique-là, c'est pas joli, parce que votre toiture, ça ne va pas, parce que vous faites trop de logements, parce que sais-je. Mais parfois même en disant non sur le principe. Hein? Non, même si on est en zone constructible au plan de secteur, je pense que par rapport à l'environnement bâti et non bâti, c'est pas une bonne idée de construire là.
Oui, et ça, c'est notamment les autorités communales qui rentrent beaucoup en compte dans ce type de décision. Et d'une commune à l'autre, évidemment, on ne prend pas nécessairement les mêmes décisions. Vous, à Inter Environnement et les Nantions, vous pensez qu'il faudrait qu'au niveau régional, on rouvre le dossier des plans de secteur, des zones habitables, et qu'on soit beaucoup plus strict sur les zones où on peut ou non construire.
Oui, tout à fait.
Plus restrictif, quoi.
Oui.
Vous pensez en fait que... Voilà, on est trop en Wallonie à allonger le long des routes, les zones constructibles, etc.
Oui, oui. De toute façon, on est aujourd'hui à un tournant et les acteurs ont enfin fait le lien entre aménagement du territoire et climat.
Mm-hmm.
Il y a aussi la vulnérabilité de nos territoires face au changement climatique qui a pu être vu dans des épisodes récents vraiment douloureux pour tout le monde, en tout cas pour beaucoup de gens.
Oui, dans les inondations notamment en vallée de la Vesne.
Oui, oui, et ils ne sont toujours pas sortis de leurs problèmes du tout.
Mmh.
Voilà, donc Canopéa et ses associations membres tiennent vraiment à ce qu'on considère que l'arrêt de l'artificialisation, puisque c'est un des objectifs hein, que l'Europe a imposé aux pays et régions et que la Wallonie a donc décidé de prendre à bras-le-corps.
C'est ce qu'on appelle le stop au béton. Hein,
ah, ça,
si
c'est, l'expression, voilà, on peut en reparler dans un instant.
Je
ne
sais pas
mais
si c'est une
cas...
bonne expression, mais c'est ce qu'on entend souvent. Voilà.
En tout cas, l'arrêt de l'artificialisation ou le freinage de l'étalement urbain, nous pensons qu'il ne pourra pas se faire sans toucher au plan de secteur. Et de la manière dont je vous ai parlé il y a un instant, en croisant les contraintes, en croisant tout un tas de préoccupations qui aujourd'hui sont au devant. De l'actualité.
Ça veut dire qu'on doit vraiment redessiner le paysage wallon aujourd'hui pour s'assurer qu'on construit de manière rationnelle.
Oui, et rationnel dans le sens le plus plein et le plus participatif possible aussi. Je pense que beaucoup de citoyens et de citoyennes ont des choses à dire sur ce que ça veut dire rationnel. Et c'est vrai qu'une administration qui est obligée par les coupes dans le personnel, l'administration n'a pas un cadre immense, que ce soit dans les communes ou à la région. Il y a vraiment, c'est aussi une équipe qui n'est pas nécessairement extensible comme ça et qui ne sait pas aller sur le terrain partout et qui doit régler des piles et des piles de dossiers. Du coup, effectivement, je crois que la participation peut être bien parce que ce sont les yeux et les jambes de l'administration, les citoyens qui rencontrent des situations et qui se disent on fait de l'aménagement du territoire, pas seulement en introduisant une demande de permis, mais aussi en faisant d'autres choses. Parlons-en ensemble.
Et puis, il y a évidemment la demande de logement qui reste forte. Hein. En Wallonie, la question, quand vous dites rationnelle, c'est comment construire, évidemment. La villa quatre façades de Jean Sagaoué n'est sans doute plus le modèle dominant. Mais Jean-Marc Secrétin, j'aimerais vous demander, vous, en tant que juriste, rouvrir les plans de secteur, rouvrir ce débat et l'avoir sans doute peut-être au niveau régional pour éviter la disparité de décision entre les communes, ça vous semble opportun ?
Oui, sans doute. Hein, le plan de secteur, ils ont leur âge maintenant. Ils remontent aux années 70. Donc, j'ai pas besoin de vous faire un dessin sur l'évolution des mentalités et des préoccupations entre 1975 et 2022. Donc oui, ça fait sens. Et ça fait doublement sens parce que, pour faire un peu l'avocat du diable par rapport à ce que Mme Mention vient d'expliquer, il faut aussi se mettre dans la peau du citoyen qui achète un terrain qui se trouve en zone constructible au plan de secteur, qui le paye le prix d'un terrain constructible, qui va introduire sa demande de permis et à qui on va dire « Oui, alors c'est peut-être bien en zone constructible, mais finalement, pour diverses raisons, les préoccupations environnementales, vous ne pourrez pas construire là-bas. » C'est quand même à prendre en considération. Il y a un élément de prévisibilité, de sécurité dans le chef des gens qu'il faut prendre en compte. Et pour le moment, c'est un peu ambigu parce que finalement, on rattrape par d'autres... par d'autres critères, par d'autres moyens, l'âge et parfois le caractère inadapté ou insuffisamment précis des plans, qu'ils soient de secteur ou communaux d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des plans au niveau communal qui existent, qui peuvent préciser ce que dit le plan de secteur, voire parfois même y déroger. Mais on rattrape par cette sauce-là, et alors que du coup ça pose des problèmes de prévisibilité, il y a de véritables injustices, quoi. Et pas seulement pour le petit citoyen, mais je pense aussi on a besoin de beaucoup de logements. À un horizon 2050, on a besoin d'énormément de logements en région wallonne. Donc on a besoin des promotions immobilières. Personne n'a envie que ça soit dans son jardin, mais on a tous besoin de ça. L'intérêt général, il est aussi à ce qu'on réalise des nouveaux logements. Et les nouveaux logements ne vont pas se réaliser majoritairement par des petits projets individuels. Ça, il faut en être bien conscient. Et donc, il faut que cette promotion immobilière puisse se développer avec une certaine sécurité juridique. Donc, dans ce sens-là, oui, revoir les plans de secteur, ça fait sens. Mais, je dis tout de suite, c'est une procédure. C'est super lourd.
Oui, c'est compliqué.
Voilà, c'est compliqué et ça prend du temps. Et il faut vraiment prendre la chose à bras-le-corps et dégager les moyens humains et financiers pour le faire. Ça, je ne sais pas si c'est dans les priorités actuelles.
Dans les cartons, oui.
Concilier la brique dans le ventre qu'ont les Belges, la propriété privée, l'aménagement du territoire et puis les défis à relever au niveau environnemental. On voit bien que cette saga Sagaoué avait déjà en elle les germes d'enjeux qui nous touchent encore aujourd'hui en 2022. C'était l'histoire continue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Hélène Ancion de Canopéa.
Merci aussi.
Et merci Jean-Marc Secrétin, vous êtes avocat donc à Liège.
Avec plaisir.
Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce que nous faisons chaque semaine dans l'Histoire continue.
Avec l'aide des archives de la Sonuma et à la réalisation Jonathan Rémy.